Bonsoir, entrons ensemble dans un temps du débat consacré ce soir au pluralisme. À l'ordre du jour ce soir, médias, comment se construit le pluralisme? Après un recours de Reporters sans frontières à propos de la chaîne CNews, le Conseil d'État a jugé le 13 février dernier que l'ARCOM, l'autorité de régulation de l'audiovisuel, devrait désormais prendre en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion représentés par l'ensemble des participants, y compris les chroniqueurs, animateurs et invités, et pas uniquement le temps d'intervention des personnalités politiques sur cette antenne. Jusqu'alors, le pluralisme politique sur une chaîne de télévision ou de radio se mesurait par le temps de parole des invités politiques sur chacune de ces chaînes, publiques ou privées. D'ailleurs, cette décision du Conseil d'État a immédiatement donné lieu à des réactions de la chaîne CNews, mais également d'acteurs publics qui s'interrogent sur la faisabilité d'une comptabilité non seulement de ces invités politiques au sens strict du terme, mais aussi des chroniqueurs et des journalistes selon leur orientation politique supposée. Car le pluralisme n'est pas un donné, mais une construction évolutive au fil du temps. Comment se construit justement ce pluralisme? C'est la question que nous posons à nos trois invités. Camille Broyel, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes professeure de droit public à l'université d'Assas. Vous dirigez le master de droit numérique et des médias. Vous êtes co-autrice avec Laurence Franceschini du livre « Droit de la régulation audiovisuelle » chez LGDJ, c'était en 2020, et d'une tribune récente dans Le Monde. Vous nous en parlerez. Avec nous également Sylvain Bourmeau, bonsoir.
Bonsoir Emmanuel.
Vous êtes journaliste, directeur du journal quotidien en ligne AOC, producteur évidemment de l'émission La Suite dans les idées sur France Culture, 18h10, 19h le samedi, mais aussi cette très bien en podcast, y compris le dimanche matin, mais tous les autres jours aussi. Vous êtes professeur associé à l'Université Paris 1. Enfin, troisième invité, Philippe Terle, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste britannique et chroniqueur international à France 24, ancien correspondant pour plusieurs médias britanniques, notamment Sky News et ITN, et vous êtes ancien enseignant à la Sorbonne à Paris 3.
Le pluralisme, c'est un pilier de la démocratie. C'est comme... Moi, je veux faire le parallèle avec la justice. Sans justice, c'est l'arbitraire. Et l'arbitraire, on sait à quoi ça conduit. Et donc le pluralisme, c'est aussi un pilier de la démocratie. C'est aussi lutter contre la mauvaise information, contre le détournement de l'information. Nous parlions, avant d'arriver dans ce studio, justement sur la culture scientifique. Moi, je vais installer un comité de scientifiques pour pouvoir rétablir la culture scientifique. La France est un pays de culture scientifique. Et aujourd'hui, et notamment, ça a été assez, j'allais dire, important au moment du Covid. Regardez tout ce qui s'est passé, la remise en cause de la science, du progrès. Regardez sur la vaccination, comme ça a été très malmené, alors que nous sommes le pays de Pasteur.
Vous venez d'entendre Rachida Dati, ministre de la Culture, qui répondait à Guillaume Erner dans les matins de France Culture, c'était jeudi dernier, et qui évoquait cette question du pluralisme. Visiblement, il y a plusieurs acceptions de ce terme de pluralisme. Vous y avez travaillé pour cette tribune dans Le Monde dont je parlais tout à l'heure, Camille Broyel, et vous dites effectivement, c'est un construit, ça n'est pas un donné.
Oui, absolument. C'est un construit de la part de la puissance publique, les pouvoirs publics qui doivent prendre des mesures pour garantir ce pluralisme. Ça, c'est la conception. Alors, le pluralisme, peut-être, il faut commencer par le définir. C'est exposer le public, quel qu'il soit, à différents courants d'expression et de pensée. C'est ça le pluralisme. Que, en fait, personne, aucune chapelle, puisse prendre le pouvoir de l'opinion et être le seul ton, donner la seule couleur à l'opinion publique. C'est ça le pluralisme, qu'il y ait une concurrence des points de vue. Ça se construit en Europe et en fait dans la plupart des démocraties. Aux États-Unis, on compte sur le libre jeu du marché. Mmh. C'est le libre marché des idées, c'est-à-dire qu'une idée fausse...
Et c'est très différent de la manière dont ça se passe.
Rien à voir. Ouais. Une idée fausse sera détruite par une idée vraie. Et on laisse les idées, le marché des idées, les idées éclore naturellement, en oubliant que les intérêts économiques qui manipulent les idées. Ça, c'est pas abordé du point de vue américain. Dans la doctrine, dans les autres doctrines, dans les autres démocraties libérales, le pluralisme se construit, c'est-à-dire qu'il appelle l'intervention de l'État sur la presse, dans le secteur de la presse, où les titres de presse peuvent éclore, être diffusés de façon infinie, eh bien, il se manifeste par des aides publiques pour que tous les titres puissent émerger et que donc ce pluralisme est réalisé par la diversité des titres de presse. On parle de pluralisme externe, c'est-à-dire que le public, les lecteurs seront exposés à différents titres de presse, parce qu'il en existera beaucoup. Mmh. Et sur les chaînes de la TNT, où les fréquences, parce qu'elles sont distribuées, elles sont diffusées par des fréquences hertziennes qui sont rares, il ne peut exister que 30 chaînes de la TNT, ce pluralisme, il est également fabriqué, construit, en imposant à chacune des chaînes de télévision un pluralisme interne. Mmh. On pourrait dire 30 chaînes de la télévision, c'est-à-dire que chacune offre dans ses programmes une diversité des points de vue. On pourrait dire 30 chaînes de la télévision, ça suffit. On pourrait imaginer des chaînes d'opinion, il y a assez de place. Mais ce qui est la grande différence par rapport à la presse, c'est que pour exploiter une chaîne de télévision, il faut être riche. Et donc, tout le monde n'a pas un accès effectif à la TNT. Tout le monde ne peut pas exploiter une chaîne de la TNT. Et donc, pour que ce ne soit pas les plus riches qui accaparent l'opinion et qui prennent la parole, ce pluralisme interne est imposé.
Oui, on va discuter justement des conditions de cette imposition de ce pluralisme interne. Sylvain Bourmeau, vous avez lu cette décision du Conseil d'État, à propos de cette chaîne CNews, qui avait été un avis du Conseil d'État qui avait été demandé, en l'occurrence, par Reporters sans frontières, et elle vous a surpris, inquiété?
Elle m'a inquiété à certains égards, rassuré à d'autres. Donc, juridiquement, pour bien comprendre, Reporters sans frontières s'est d'abord adressé à l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation des médias électroniques.
Enfin, il faut expliquer que l'ARCOM, c'est
le résultat de la fusion entre le CSA et l'Agence de régulation des télécoms. Donc c'est
l'ADOPI.
Et donc c'est cette autorité administrative indépendante qui est chargée de contrôler un certain nombre de règles qui prévalent, qui sont dans le droit, et notamment effectivement le fait que les chaînes qui disposent d'une concession, qui disposent d'une fréquence, d'une capacité à émettre pendant une période donnée, respectent les engagements qu'elles ont pris.
De pluralité politique, auprès des invités politiques que l'on peut avoir sur nos antennes.
Et Reporters sans frontières, en tant qu'association dans le domaine du journalisme, avait saisi l'ARCOM pour s'émouvoir du fait que CNews en particulier ne respectait pas un certain nombre de ses obligations.
Parce qu'elle était une chaîne d'information, c'est à ce titre-là qu'on avait, elle avait obtenu son agrément de la part de l'État et de l'ARCOM. Et donc la question c'était savoir si c'était une chaîne d'information ou une chaîne d'opinion. Et donc,
En fait il y avait trois griefs qui sont repris par la décision du Conseil d'État, trois différents sujets en fait. Et donc... Le premier sujet, c'est effectivement la question de l'information. Est-ce que c'est une chaîne d'information? Qu'est-ce que c'est que l'information? Et à ça, le Conseil d'État répond, et ça je trouve ça plutôt rassurant, l'information, ça ne veut pas dire l'information exclusive. Ça ne veut pas dire la recherche d'une information qui n'aurait jamais été publiée ailleurs. Ça, évidemment, c'est le Graal pour les journalistes. C'est ce qu'on voudrait tous faire en permanence. Sauf que je vous invite tous à faire un petit exercice. Vous lisez le journal, vous écoutez la télévision ou la radio, et vous repérer ce type d'informations exclusives, elles sont pour le moins rares. La plupart des informations qu'on entend ou qu'on lit, c'est des informations qui sont produites par d'autres journalistes, par d'autres médias, voire par des chercheurs, par tout un tas de gens. Et ces informations qui n'en sont pas moins vraies ne sont que reprises par des journalistes. Donc en fait, le travail de journaliste, c'est pas juste produire des informations inédites chaque fois, c'est agencer, mettre en relation des informations qui viennent de différents endroits. Donc le Conseil d'État me paraît fondé quand il explique que par information, il faut avoir une définition assez large. Premier point. Deuxième point, et ça c'est très important aussi, Reporters sans frontières disait ce qui pose problème, c'est pas uniquement un incident à un moment donné, un dérapage, des propos en particulier, c'est une tendance, c'est la répétition d'un certain nombre de micro-incidents, de micro-problèmes, et il faut donc pouvoir saisir tout ça d'un même bloc. Et là, de ce point de vue, le Conseil d'État a donné raison à Reporters sans frontières en disant l'ARCOM doit contrôler ces séquences entières ou ces plages ou cette politique éditoriale en quelque sorte, et pas juste dire si Monsieur X ou Monsieur Y a tenu des propos qui ne sont pas conformes à la loi, ce qui par ailleurs tombe sous le coup du droit pénal, ça c'est autre chose. Donc ça c'est le deuxième point. Et le troisième point, qui est le plus important, ce dont on va parler aujourd'hui, concerne le pluralisme en fait. Le Conseil d'État a demandé à l'ARCOM de changer sa manière de faire. La manière de faire jusqu'à présent de l'ARCOM, c'est de veiller à ce que le pluralisme politique soit respecté. pluralisme politique, c'est-à-dire...
Toute personne qui est encartée ou qui appartient à un parti politique est calculée par un système que nos auditeurs connaissent peut-être parce qu'on a déjà fait des émissions sur ce sujet, donc, et permet de savoir si, représentativement par rapport à l'Assemblée nationale issue des dernières élections, eh bien, chacun des partis est représenté suffisamment sur les antennes publiques et privées.
Et par rapport à l'exécutif qui, président de la République, gouvernement, Absolument. Premier ministre, compte pour un tiers déjà, les deux tiers restants étant à partager entre toutes les tendances politiques, principalement celles représentées à l'Assemblée nationale, en effet. Donc ça, ça date de 2018, c'est assez récent, et ça prend en compte une évolution de l'offre politique également. Donc ça, c'est le pluralisme politique. Et le Conseil d'État a dit, ça suffit pas, en fait, au terme de la loi, prévoit que le pluralisme des opinions doit être pris en compte. Et c'est là qu'à mon sens, ça devient impraticable et donc dangereux parce que impraticable.
Qu'est-ce que vous pensez d'une discussion comme celle-ci qui peut apparaître un peu comme une discussion extrêmement précise, pourrait-on dire, sur cette question du pluralisme? Philip Turn, vous qui êtes à la fois britannique et qui suivez depuis très longtemps la France et en particulier les médias français, puisque vous y participez donc en tant que chroniqueur international à France 24, qu'est-ce que vous pensez d'une discussion comme celle-ci? Est-ce qu'elle aurait lieu, par exemple, à propos de la BBC ou à propos des médias en Angleterre?
Vous savez, je vais être honnête avec vous, parfois j'ai du mal à savoir si je suis en France ou en Grande-Bretagne, parce que j'ai l'impression parfois que les discussions qu'on entend en France, on les entend également en Grande-Bretagne. Et en ce moment, on est face exactement au même problème qu'en France, à savoir qu'on a une chaîne qui existe depuis 2021, qui s'appelle GB News, qui est un peu une copie exacte de CNews, à savoir c'est une chaîne de droite, voire d'extrême droite, qui a loué les services de plusieurs anciens ministres qui étaient pour le Brexit, qui est propriétaire de cette chaîne, est un ancien pro-Brexiteur avec des fonds qui viennent de Dubaï. Et ça a déstabilisé l'audiovisuel public britannique parce que
et la BBC
de plus en plus de gens qui regardent, au détriment de la BBC, les médias traditionnels. Et le problème en ce qui concerne l'audiovisuel public en Grande-Bretagne, c'est que non pas seulement cette chaîne-là a de l'argent, peut avoir de la publicité, peut payer assez cher ses animateurs qui n'ont aucun problème, par exemple, qu'un ancien ministre conservateur invite un ministre actuellement conservateur sur ces plateaux pour parler de la politique du gouvernement conservateur. C'est d'après l'Ofcom, qui est l'organisation de réglementation en Grande-Bretagne, comme l'Arcom en France, c'est une fin de non-recevoir. Mais ils persistent parce qu'ils savent que c'est mieux de tenter la chance pour y arriver, pour tirer le public, au détriment de la BBC.
Avec un modèle ancien qui est le modèle de Fox News, j'imagine.
C'est un modèle de Fox News, c'est le modèle aussi de Rupert Murdoch. Deuxième point, ce qui est assez important à souligner, c'est que la BBC, qui est mondialement respectée comme le summum des médias d'État qui vérifient les informations, qui est une parité parfaite, qui a tout est vraiment bien fait, est attaquée en ce moment du gouvernement britannique, par certains membres du gouvernement, et pas moins de Boris Johnson pendant la période du Brexit, en disant la BBC est trop à gauche, la BBC critique trop les conservateurs, et donc il faut qu'on réduise le financement de la BBC, et nous voyons petit à petit la BBC en train de perdre son influence, son argent, et sa place comme le média le plus respecté en Grande-Bretagne. Donc je dirais que, pour terminer, la pluralité des médias, pour moi, c'est le défi, l'un des défis le plus important du 21e siècle.
Et qu'est-ce que, justement, vous dites de ce défi, Camille Broyel, en tant que professeur de droit public, et que vous disiez dans votre article du Monde, votre tribune du Monde, vous disiez que c'est une bonne décision, contrairement à ce que disait Sylvain Bourmeau tout à l'heure, c'est une bonne décision qui a été prise, parce que c'est une décision qui permettra, justement, d'asseoir cette question du pluralisme de façon nouvelle, différente de ce qui a été fait auparavant.
Mais c'est oui, je pense que c'est une très bonne décision. Cette décision, elle se contente de retenir de la loi, de cette exigence de pluralisme interne, une interprétation qui la rend effective. Parce qu'il y a une chose qui est certaine, et je crois qu'on peut tous s'entendre ici autour de cette table pour le dire, c'est que le pluralisme interne posé par la loi, une exigence de la loi qui est comptée, qui est mesurée uniquement par le décompte du temps de parole des personnalités politiques, on est d'accord pour dire que ça ne marche pas. Donc, si ça ne marche pas...
Ça marche chaque fois qu'on rend notre bilan à l'ARCOM, eh bien, ça doit marcher, puisqu'on doit être, d'une certaine manière, avoir l'assentiment de l'ARCOM sur le décompte que donne chacune des chaînes à cet organisme.
L'obligation est respectée, vous la respectez. D'ailleurs, CNews ne l'a pas tout le temps respectée, puisqu'en 2021, il faisait passer les personnalités politiques la nuit, donc de la majorité la nuit. Mais ce que je veux dire, c'est que ça n'est pas effectif pour atteindre son but, qui est d'assurer le pluralisme interne. Cette exigence, elle peut être, si on se limite à mesurer le pluralisme interne avec en comptant le temps de parole des personnes politique, il suffit à une chaîne de télévision, et c'est ce qui se passe, de ne pas inviter de personnalités politiques, ou d'en inviter très peu, mais de faire la politique par ailleurs pour que ce pluralisme, cette exigence de pluralisme soit contournée. Donc la seule question véritable, c'est est-ce qu'on tient ou non à cette exigence de pluralisme interne qui est posée par la loi. On peut en discuter, c'est pas parce qu'elle est posée par la loi qu'elle est indiscutable.
Sylvain Bonmot.
Oui, ça, je pense que c'est très très important, parce que je pense qu'on tient tous au pluralisme. La question, c'est comment on peut l'organiser, en fait. S'agissant de la presse écrite, il s'agit d'un pluralisme externe, c'est-à-dire que l'État donne de l'argent public.
Et c'est d'ailleurs assez critiqué, parce qu'effectivement, on sait que certains journaux critiquent d'autres journaux pour avoir eu plus d'argent de la part de l'État, etc.
Et puis, il y a des journaux qui n'en veulent pas du tout. Ouais. Mais, dans l'ensemble, on est dans un modèle assez libéral, issu de, au sens du libéralisme politique, issu des grandes lois sur la presse, avec des aides publiques qui vont à tous les titres qui sont ce qu'on appelle IPJ, c'est-à-dire l'information politique générale qui est un label en quelque sorte décerné par la commission paritaire, qui est celle qui décerne aussi les cartes de presse, qui est composée par des représentants de la profession et par des conseillers d'État. Donc, en fait, dès lors qu'on fait du journalisme d'intérêt public, et ça concerne énormément de journaux en France, on peut prétendre à obtenir des aides publiques pour ça. Et donc, des journaux très engagés, l'Humanité d'un côté, mais aussi Valeurs Actuelles ou Présents, touchent des subsides publics, et des subsides publics très importants, pour publier leurs journaux. Parce que ça coûte aussi cher de faire un journal. Il n'y a pas que les télévisions qui coûtent cher. Le pluralisme, il doit s'adapter à l'époque. On a des sites internet qui sont arrivés, qui ne sont pas régis sur les mêmes principes que les chaînes de télévision et de radio, parce qu'il n'y a pas de rareté des fréquences, qui sont régis sur le principe de la presse, mais qui n'étaient pas aidés. Il y a depuis 2 ans maintenant une aide au SPEL, c'est-à-dire au service de publication en ligne, dont AOC fait partie. Et donc on touche de l'argent public comme une aide au pluralisme. Cette aide au pluralisme, elle n'est pas parfaite dans la mesure où aujourd'hui, pour pouvoir toucher cette aide, il faut s'engager quand on est un pure player, comme on dit, c'est-à-dire un site en ligne, à ne pas avoir de journal papier. Alors même que les journaux papier, eux, ont le droit d'avoir un site internet. Donc là, il y a une concurrence faussée entre les acteurs médiatiques, par exemple, donc le pluralisme n'est pas parfait. Le pluralisme interne, il est très compliqué parce qu'il nécessite d'avoir une espèce de contrôleur qui regarde comment ça se passe. Or, c'est là que ça devient très dangereux. Je pense, personnellement, qu'il serait mieux de renforcer des modes de pluralisme externe, y compris sur la télévision et la radio, par exemple en ayant des lois antitrust, parce que aux États-Unis la situation est compliquée, mais il y a beaucoup plus de contraintes qui pèsent sur les propriétaires de médias qu'en France. En France, un des moyens de contrôler ces puissances, ce serait d'interdire le fait d'être propriétaire de plusieurs chaînes, de radios, de journaux, etc. C'est un premier moyen. Il y en a d'autres. Je veux dire,
on va y venir un peu plus tard.
Je voudrais juste prendre un dernier exemple. Un moyen de garantir le pluralisme dans la librairie, ça a été la loi Langue sur le prix unique. C'est une loi qui se mêle pas de savoir si un livre qu'on vend est un livre de philosophie ou de recettes de cuisine. C'est la même règle qui prévaut. Ça nécessite pas d'intervenir sur le contenu. Dès lors qu'on s'intéresse au contenu, ça me semble dangereux.
Philippe Toll, vous disiez tout à l'heure, il faut s'apercevoir qu'on vit une révolution numérique, et ça vient d'être dit par les deux autres intervenants à cette discussion, et que, d'une certaine manière, toutes les règles qui existaient auparavant peuvent être bousculées par cette révolution numérique.
En fait, je pense qu'on est en train de vivre un tsunami médiatique en ce moment avec l'arrivée des réseaux sociaux. C'est pas nouveau, hein. Mais j'ai cherché quelques chiffres en Angleterre pour l'utilisation des médias traditionnels par rapport aux réseaux sociaux. Et c'est assez hallucinant le changement d'habitude des Britanniques, à savoir en 2013, 32% des adultes en Grande-Bretagne utilisaient l'Internet pour cueillir les informations. En 2021, c'était 73%
De 32 à 73.
32 à 73 entre 2013 et 2021, en 8 ans, maintenant d'adultes qui utilisent uniquement l'Internet pour chercher des informations. Donc, ils ne regardent plus la télévision et ils ne lisent plus les journaux. Et dans les plus jeunes, et c'est ça le gros problème, c'est eux, ils sont délaissés et les chaînes d'information traditionnelles, la BBC, ITV, Sky News et autres, ils dépendent uniquement de Facebook, de Instagram, de TikTok pour leurs informations. Et de moins en moins, 1 sur 5 qui lit un journal traditionnel, soit par Internet, soit en papier. Donc, la presse traditionnelle papier est en train de voir une perte de vitesse, une perte de vente, mais extrêmement vite, surtout depuis Covid. Et pour le moment, ils ne savent pas trop comment reprendre le relais derrière pour se refaire une santé. Il y a des sites, évidemment, pour chaque journal, mais il y a tellement de sites maintenant disponibles et les gens n'aiment pas trop aller sur un seul site, ils zappent entre plusieurs sites. C'est très compliqué pour trouver un journal qui a assez d'influence pour générer assez d'argent pour pouvoir survivre.
18h41 sur France Culture, vous écoutez le temps du débat. Médias, comment se construit le pluralisme? C'est la question que nous posons. Vous venez de l'entendre à Philippe Turl, qui est journaliste britannique et chroniqueur international à France 24, à Stéphane Bourmeau, journaliste, directeur du journal quotidien en ligne AOC et producteur de l'émission La Suite dans les idées sur France Culture, et Camille Broyel, qui est professeur de droit public à l'université d'Assas et qui dirige le master de droit numérique et des médias.
D'une certaine manière, notre objectif, c'est de créer du contradictoire et donc d'avoir une forme de pluralisme de point de vue et de permettre, par le truchement de ce pluralisme, d'aller plus loin dans l'information. Donc, pour composer un plateau, déjà, par exemple, on ne peut pas inviter les gens qui boycottent CNews. Alors, on ne peut pas inviter les écologistes qui boycottent CNews, qui, eux, ont l'honnêteté de le dire et de le faire savoir. On ne peut pas inviter les gens qui, soit officiellement, nous répondent « je boycotte CNews », comme monsieur le député Caron, ou d'autres qui ne répondent pas à nos invitations. Donc quand on ne répond pas à nos invitations, au bout d'un certain temps, on dit « bon, on ne peut pas inviter cette personne-là ». On ne peut pas inviter monsieur le député Gage, qui ne répond pas à nos invitations. Donc, on compose nos plateaux avec les gens qui veulent bien venir discuter sur nos plateaux.
France Culture, le temps du débat. Emmanuel Laurentin.
C'était Thomas Bauder, le directeur de l'information de CNews, qui s'exprimait lors des auditions des représentants justement de cette chaîne à l'Assemblée nationale le 29 février dernier. C'est difficile de créer du contradictoire. Comment peut-on traduire justement ce que vous disiez tout à l'heure, Camille Royel, cette décision du Conseil d'État dans la pratique, dans les chaînes qui doivent l'appliquer désormais, et pas simplement CNews, mais toutes les chaînes qui voudraient bien suivre cette recommandation. Comment fait-on pour pouvoir mettre ça en place? Quels sont les outils que l'on peut avoir? Vous dites dans votre article qu'il faut des outils pour le faire.
Il faut des outils, puis je pense pas qu'on puisse les trouver en moins de 3 semaines. Et surtout, il y a quelque chose qui m'étonne, c'est-à-dire que soit l'enjeu du pluralisme est important, et soit on s'entend pour dire que sur la TNT, seul un pluralisme interne peut être imposé et pas externe. Je reprends ce que vous disiez, monsieur, lorsque vous dites que sur la radio, sur la télé, on pourrait instaurer un pluralisme externe. Comment concrètement, par des lois notamment anti-concentration, les lois anti-concentration peuvent empêcher que un groupe prenne la totalité de l'opinion, de la parole d'opinion. Mais elles ne suffisent pas à faire émerger des paroles contradictoires. Donc, à part des opinions différentes. Donc, par exemple, le média, la chaîne Le Média, qui est uniquement sur Internet. Si on veut qu'il existe un pluralisme externe, il faudrait que des...
La chaîne Le Média qui est proche de la France Insoumise,
De la France Insoumise, ça signifie qu'il faudrait que, pour que faire le pendant de ces news, que Le Média soit aidé financièrement par l'État, comme en matière de presse, pour exister. On voit bien que c'est pas possible. C'est pas tenable. Donc, comment il peut... Donc,
l'outil, quel outil, alors?
Cet outil, donc, ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas s'arrêter, vu l'enjeu absolument colossal. Parce que les médias, ce sont les médias qui font l'opinion, qui en rendent compte et qui la fabriquent. Et c'est le nerf, la substance de la vie démocratique, de la vie en société. Donc soit à partir de cette exigence-là, on ne peut pas, 3 semaines après la décision, se contenter de dire « c'est difficile, donc c'est une mauvaise décision ». Non, l'ARCOM a 6 mois pour trouver une solution. Il existe dans le monde et en France des centres de recherche en sciences humaines extrêmement pointus pour mesurer les influences, les opinions, notamment sur Internet, qui ont développé des outils extrêmement performants, qui se fondent sur des données qualitatives et pas quantitatives, pour qu'on mesure, pour qu'on rende compte des opinions. Je ne peux pas croire... c'est un chantier, il ne faut pas le minimiser, c'est un grand chantier, mais je ne peux pas croire qu'on ne trouve pas de solution.
Philippe Turn,
j'aimerais bien rebondir sur ce que je viens d'entendre de le directeur de la rédaction de
CNews.
Je trouve qu'il y a une grande mauvaise foi dans ce qu'il dit. Parce que d'abord il dit les gens ils viennent pas.
C'est vrai, non il faut reconnaître.
Mais quand c'est la faute à qui que les gens viennent pas ? C'est à qui la faute que les gens viennent pas ? C'est quelle réputation est dans cette chaîne ? Les gens ils ont pas envie d'y aller à cause de la réputation de la chaîne.
Vous savez sûrement et vous le pratiquez à France 24.
Je suis sollicité par beaucoup de chaînes. Je suis pas toujours disponible, mais j'y vais quand je peux. Mais je ne souhaitais pas aller à CNews parce que je trouve que cette chaîne n'a pas une couverture équilibrée de l'actualité. Et une autre chose, il y a un mot qu'on n'a pas dit lors de ce débat, c'est le buzz. Et qu'est-ce qu'il veut, toutes ces chaînes ? Il veut créer le buzz. C'est comme sur l'Internet. Le buzz, c'est tout ce qui marche. Allez, on va dire quelque chose de plus en plus provocateur en dehors des règlements, les réglementations normales, pour attirer le peuple, pour attirer les téléspectateurs, pour attirer les gens pour acheter le journal. C'est pareil en Grande-Bretagne avec le Sun, avec le Daily Mail et les autres journaux qui font des unes assez
provocatrices,
etc. pour vendre du journal. Et je pense que CNews, c'est comme ça. Donc j'ai du mal à accepter ce que j'entends.
Mais vous savez très bien, effectivement, que il peut nous arriver, y compris ici, d'essayer d'inviter des gens qui ne veulent pas discuter entre eux et qui désertent d'une certaine manière les plateaux que nous voudrions les plus honnêtes possibles dans la représentativité, et que ça arrive assez fréquemment tout de même. Et j'imagine que dans ce cas-là,
vous cherchez quelqu'un d'autre. Mais les gens, ils existent. Je suis désolé, les gens existent. Vous pouvez composer un plateau si vous avez vraiment envie de le faire.
Sylvain Bonbon.
Quand on est journaliste, c'est de notre responsabilité d'organiser ce pluralisme, et c'est pas une chose toujours facile à faire de façon concrète, mais elle est passionnante. Je voudrais expliquer pourquoi je trouve dangereux ce qui va se mettre en place, ce qui est en train de se mettre en place, et difficilement, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Tout simplement parce que OK, il y a aujourd'hui des outils d'analyse qui permettent de cartographier au fond les opinions. Mais comment concrètement utiliser une telle carte produite par le Media Lab de Sciences Po ou un autre endroit dans la pratique concrète du métier de journaliste quand il s'agit de composer un panel ? Il faut bien à un moment donné que ça se traduise par le fait de savoir si on invite X ou Y et si on invite X, est-ce qu'il faut inviter Y ou Z ? C'est-à-dire composer quelque chose qui permette une forme de pluralisme. Or, ma crainte, c'est qu'on rabatte sur les courants d'opinion les clivages politiques partisans. On a déjà une vraie difficulté aujourd'hui. Je prends un exemple. Aujourd'hui, quand quand des universitaires s'engagent un peu en politique, deviennent adjoints dans une ville, même une petite ville, quand ils co-signent un livre avec un homme politique. Je prends l'exemple de Najat Vallaud-Belkacem qui vient de signer un livre avec François Dubé, là, dans la collection de Pierre-Rosan Vallon, un livre sur l'école, qui est un livre sérieux. Eh bien, je sais qu'ici, à France Culture, des gens s'interrogent sur la possibilité ou pas d'inviter Najat Vallaud-Belkacem pour parler d'un livre sérieux coécrit avec un universitaire, parce que si on l'invite, alors ça va entrer en ligne de compte dans le temps mesuré, et donc ça va plomber en quelque sorte le temps pour ce camp politique. Ce qui va se passer demain, ce qui va se passer demain, c'est qu'en fait on va rabattre absolument, on va politiser tout, on va revenir à un temps, vous savez, sur France Inter, il y avait les débats entre Robert Escarpi, Roland Leroy, c'est-à-dire il y aura plus comme média que les étendards des partis politiques. Est-ce que c'est à ça qu'on va revenir ?
Camille Moyenne n'est pas d'accord avec vous.
Oui, je crois que vous comprenez. Enfin, si vous m'autorisez cette remarque, je crois que vous ne comprenez pas bien le sens de la décision.
Ce que vous décrivez. Je comprends trop bien. Je crois.
Ce que vous décrivez là, c'est ce qui se passe aujourd'hui et qui est absolument incapable de saisir et de mesurer véritablement le pluralisme. Ce que vous décrivez là, le fichage, c'est ce qui est en train de se produire avec la liste des personnalités politiques qui a été étendue aux personnalités qui ne sont pas encartées. L'objectif, l'outil qui doit être créé
par l'ARCOM, il faut préciser.
Par l'ARCOM, c'est pas du tout un face-à-face, je suis de gauche, je mets quelqu'un de droite en face. C'est de pouvoir un instrument qui permet de photographier la couleur générale dans l'ensemble de la programmation. C'est écrit dans l'ensemble de la programmation.
Mais c'est pas ça que dit la décision.
En prenant en compte dans l'ensemble de la programmation.
La décision dit qu'il faut prendre en compte et donc ficher non seulement les invités, mais aussi les chroniqueurs.
Il n'est pas du tout écrit ça. C'est inexact. Elle prend en compte la diversité des courants de pensée et d'opinion exprimés par l'ensemble des participants au programme diffusé dans l'ensemble.
Mais c'est quoi un courant de pensée de... Qu'est-ce que c'est un courant de pensée? Il va falloir coder ce que c'est qu'un courant de pensée. Est-ce qu'il y a plusieurs courants de pensée?
Laissez parler Camille.
Attendez, vous faites une expérience très simple. Vous mettez monsieur ou madame lambda, vous lui mettez CNews, vous allumez CNews, vous allumez C8. Ensuite, vous passez cette personne sur TF1, sur M6. La chaîne d'opinion, il la reconnaît immédiatement, avec la force de l'évidence. Donc, si vous voulez dire
entre
maintenant...
Entre TF1 et CNews, je suis pas sûr que ce soit toujours facile à faire la différence.
Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et donc, si vous pensez que la démocratie doit abdiquer parce que, oh mon Dieu, c'est trop compliqué...
Mais j'ai jamais dit au contraire.
Et que c'est totalement. Oui, mais c'est bien. Quoi, au contraire?
La démocratie ne doit absolument pas.
Alors, votre solution, c'est un pluralisme externe qui ne peut pas exister sur la TNT.
Mais pourquoi il ne pourrait pas exister?
C'est pour la raison que je viens de vous dire.
Mais alors, commençons par prendre des lois antitrust, premièrement. Deuxièmement, quand il s'agira de renouveler les fréquences, est-ce que vous croyez normal d'attribuer ces trois fréquences, c'est-à-dire LCI, c'est-à-dire BFM, c'est-à-dire CNews, de les attribuer à trois groupes qui sont des groupes de droite dirigés par des propriétaires de droite. Que l'ARCOM doit se dire, mais au fond, sur les trois, il faut qu'on trouve un groupe qui est plutôt dirigé par des gens de gauche, qui a envie de mettre en place une politique éditoriale de gauche, qui présente son projet comme
sûr,
ça. C'est la moindre des choses.
Mais il faut que des
voilà
gens...
du pluralisme externe
mais
qui marcherait.
Que des gens... Mais attendez, mais moi je ne souhaite qu'une chose, c'est que des gens de gauche aient suffisamment d'argent pour présenter des offres et pour présenter des chaînes, pour se présenter.
Mais il y en a.
S'il vous plaît. Je ne vais pas me faire je vais pas être le défendeur de l'ARCOM et me placer apprécier toutes les décisions que prend l'ARCOM en matière d'attribution des fréquences qu'elle n'a pas encore décidées.
Non, mais elle l'a fait autrefois. Aujourd'hui, on est avec trois chaînes d'extrême droite.
Ce n'est pas le sujet. La question là.
On ne peut pas qualifier toutes ces chaînes d'extrême droite. Il faut quand même pas exagérer.
Des nuances.
La question là, c'est est-ce que on abdique sur le pluralisme interne qui est la seule façon de ne pas faire, d'éviter que la puissance de l'argent accapare le débat public. Est-ce qu'on abdique au motif que, oh mon Dieu, c'est compliqué, et l'ARCOM et le Conseil d'État dit qu'il fallait ficher alors qu'il n'a pas dit ça.
Mais pour casser la puissance de l'argent, il suffit de loi antitrust. C'est la première des choses
à
faire.
Comment vous faites?
C'est la première des choses à faire.
Sylvain Bromo. Allez-y.
Comment vous faites concrètement une chaîne d'opinion inverse de CNews qui est exactement à l'autre bord? Concrètement, dites-moi comment elle s'installe sur les ondes.
Comment fait la BBC, puisque vous êtes non seulement un observateur des médias français, mais aussi des médias britanniques, Philippe Turl, puisque vous disiez tout à l'heure qu'elle était mise en cause, régulièrement attaquée désormais, alors que c'était tout de même une puissance très importante en Grande-Bretagne. Comment fait-elle justement pour préserver cette pluralité ou ce pluralisme dont
on parle? Écoutez, je vais être honnête avec vous. Autrefois, quand je devais chercher l'information, le premier endroit où j'allais, c'était le site de la BBC. Maintenant, je trouve depuis 2 ou 3 ans la capacité de la BBC de donner des informations nouvelles à baisser. Et parfois, je vais chez Sky News, ils sont un autre site, France 24, de temps en temps, avant la BBC, parce que je trouve que les informations arrivent plus vite. Ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour la BBC. Deuxième grande chose pour la BBC qui est une mauvaise nouvelle, c'est que la BBC est a une radio mondiale, un peu comme la Radio France Internationale de la Grande-Bretagne, qui est très connue partout dans le monde, qui a des dizaines de langues, et depuis une dizaine d'années, on est en train de fermer les langues les unes après les autres, parce que pour économiser de l'argent, on ne peut plus avoir une langue en africaine ou en Amérique latine ou en Inde ou en Asie. Donc, on ferme ce service-là pour économiser de l'argent, pour mettre ça dans le service d'information Grande-Bretagne. Alors la BBC est en train de perdre son influence, et c'est la Grande-Bretagne qui perd son influence dans le monde, parce que les gens n'écoutent pas les informations qui viennent de Londres, ils retournent vers d'autres sources d'informations, et c'est une mauvaise nouvelle pour la démocratie britannique. Donc c'est ça mon grande inquiétude pour l'avenir. Et dernier point, c'est que la redevance de la BBC est gelée en ce moment et est censée disparaître en 2027. Après 2027, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on va payer média d'État? Avec quels moyens est-ce qu'on va avoir recours à la publicité ou même des investissements privés? Ça, c'est toute une question qui est ouverte et la pluralité est la première chose qui risque de souffrir.
Camille Broyer, Claire Secaille qui travaille aussi à l'observation des médias en France et en particulier justement de CNews et de C8 aussi, puisqu'elle a beaucoup travaillé sur la figure de Monsieur Hanouna, dit il faudra faire un baromètre du pluralisme comme on fait un baromètre de la diversité. C'est d'ailleurs l'ARCOM qui mesure ce baromètre de la diversité. Comment on pourrait faire un baromètre du pluralisme?
Bah écoutez, ça, je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Je ne suis pas du tout experte en sciences sociales. Tout ce que je constate, c'est que ces instruments de mesure existent. Et dans d'autres domaines.
Et qu'on peut donc les adapter.
Et qu'on peut donc les adapter et que l'enjeu en vaut la peine.
Oui, et pour vous, Sylvain Monmot?
Ben non. Moi,
pas de baromètre.
Non, mais ça me paraît impossible.
Vous voulez casser le thermomètre, c'est
non,
ça?
Non, moi j'ai des baromètres. Par exemple, sur la programmation qui est la mienne, la suite dans les idées, je fais attention à différentes choses. Je fais attention au genre de mes invités, je fais attention aux disciplines dans lesquelles ils travaillent, avoir un certain type d'équilibre. Je fais attention au fait de savoir si c'est des gens que j'ai déjà invités ou qui viennent pour la première fois. Ça me paraît très important aussi pour s'assurer d'une forme de renouvellement des invitations. Je fais attention à la diversité, comme on dit en français, à la couleur de leur peau parfois. Ça me semble extrêmement important. Mais pour moi, ce n'est pas des choses que je publie, c'est juste pour avoir une idée de ce que je fais. En revanche, si je devais faire une cartographie de leurs opinions politiques, mais je ne saurais même pas par où commencer.
D'après ce qu'on a entendu avec Camille Broyer, ça ne sera pas le cas. Donc, de toute façon,
mais c'est impossible à faire. Ouais. C'est tout simplement impossible à faire. Prenez mon cas, je suis l'un des fondateurs du collectif Stop Bolloré. Je suis très opposant à CNews, mais pour autant, je ne peux pas me réjouir de cette décision du Conseil d'État qui me semble extraordinairement dangereuse parce que je suis profondément libéral politiquement.
Parce que vous êtes profondément manipulé malgré vous.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez dire?
Vous faites le jeu, alors là, vous êtes le parfait pour...
Mais non, au contraire. Bien au contraire, parce que le collectif a d'autres revendications, notamment qui touchent aux lois antitrust, qui touchent à la manière de mettre en place du pluralisme externe, qui me semble la grande chose. C'est-à-dire que ça, c'est encore un nuage de fumée pour qu'on ne prenne pas les décisions qui sont vraiment les décisions importantes.
Il faut être intransigeant sur les contrôles, sur ces chaînes, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on met à l'antenne, sur les gens qu'on invite, et il ne faut pas hésiter à frapper faux quand ça dérape. Et je pense que la clé est là. Ce n'est pas seulement une histoire de pluralité, c'est une histoire de contrôler les chaînes pour qu'ils fassent n'importe quoi.
Parce que je crois qu'il faut vraiment bien comprendre que la liberté des médias, ce n'est pas la liberté d'expression de l'individu appliqué aux médias. Cette formule, elle est très bien, elle n'est pas de moi, elle est de Damian Tambini, un chercheur à la LSE, à la London School of Economics, qui est « La liberté des médias, ce n'est pas la liberté d'expression de l'individu parce qu'elle est entièrement tournée vers le public et l'utilité sociale des médias, l'utilité sociale et politique. »
Merci en tous les cas à tous les trois d'avoir, dans ce débat très vif, évoqué cette question du pluralisme. Le temps du débat a été préparé ce soir par Juliette Mouélic, Mathias Mégy, Fanny Richer, Roxane Poulain, Anouk Sevno, Stéphanie Villeneuve, réalisé par Laurence Malanda avec à la technique Anthony Thomasson. Merci à vous Camille Broyel, je rappelle que vous êtes co-autrice avec Laurence Franceschini du livre Le droit de la régulation audiovisuelle chez LGDJ. À vous Sylvain Bourbeau qu'on retrouve évidemment tous les samedis sur France Culture entre 18h10 et 19h dans la suite dans les idées, mais aussi avec le quotidien en ligne AOC. Et à vous Philippe Turn d'être venu avec nous en tant que journaliste britannique et chroniqueur qu'on retrouve très régulièrement, chroniqueur international à France 24.